Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugues Gabriel, professeur de médecine moléculaire à l'Université de Berne. Vous connaissez certainement mon grand intérêt pour la recherche biomédicale menée par nos collègues du continent africain. Et dans le cadre de mes interviews, je m'entretiens aujourd'hui dans ce podcast avec Houria Daimi, qui est une chercheuse invitée dans notre laboratoire. Bonjour Houria.
Bonjour Hugues.
Houria, est-ce qu'on peut débuter avec peut-être une présentation de ta part? Qui es-tu?
Moi, c'est Houria Daimi, je suis maître assistante en génétique à la faculté des sciences de Gabès au sud de la Tunisie. Donc ça, c'est brièvement, et je suis chercheuse aussi tunisienne.
Donc, tu as fait toute ta formation en Tunisie ou tu l'as faite aussi à l'étranger?
Non, en fait, ma formation, la première partie de ma formation académique, donc je veux dire maîtrise et après un master en génome humain en Tunisie. Et après avoir fait mon master, donc, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du gouvernement espagnol, donc il m'a permis de partir en Espagne pour faire un autre master, une thèse et aussi un postdoc là-bas.
Plus précisément, où en Espagne?
C'est à l'université de Jaén, donc au sud de l'Espagne, donc plus précisément au département de biologie donc de l'université de Jaén.
Et dans quel domaine tu as fait ce master et ta thèse?
Le master tunisien, c'est en génome humain, donc c'était un master un peu international puisque les enseignants, ce sont des professeurs qui sont étrangers, la majorité, bon, un peu de... Il y a des Français, il y a des Belges et tout. Et après, en Espagne, donc, c'est un master en biologie moléculaire et cellulaire. Et après, donc, c'est un programme combiné master et thèse ensemble.
Et puis, en fait, on s'est... connu plus ou moins parce qu'on travaille sur le même domaine. Raconte-nous.
Oui, exactement. Donc, depuis des années, donc, j'ai eu un grand intérêt à tout ce qui a à voir avec les cardio, donc tout ce qui a à voir avec les arythmies cardiaques, les canalopathies. Donc, je pense que les canalopathies, c'est notre terrain commun ensemble.
Ouais. Et en particulier, ta thèse, quel était le sujet?
Oui, en fait, ma thèse, j'ai travaillé sur le syndrome de Brugada, donc la génétique du syndrome de Brugada, en une grande partie, bien sûr, donc recherche des mutations chez des patients atteints de cette arythmie cardiaque. Et après, donc, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui a à voir avec la régulation du gène ACE1-5A, de la protéine NAV1.5, donc je parle régulation, interaction protéine-protéine, et aussi régulation par des long non-coding RNAs, micro-RNAs, donc toutes ces molécules-là.
Et à présent, tu es de retour en Tunisie, c'est bien juste?
Oui, exactement. Donc, ça fait presque 2 ans que je suis recrutée officiellement comme maître assistante à la faculté des sciences de Gabès. Donc, je suis de retour d'une manière permanente en Tunisie. Et voilà, donc actuellement, j'acte comme maître assistante là-bas.
Et quand on est maître assistante dans une université tunisienne, quelles sont les fonctions principales qu'on a?
Comme fonction académique, donc je donne des cours magistraux et je donne aussi des travaux pratiques et des travaux dirigés. Bien sûr, pour les travaux pratiques et travaux dirigés, c'est compartie avec des collègues contractuels. Et je fais aussi des activités de recherche, donc je suis enseignante-chercheuse.
Puis parmi donc, ces projets, donc ton cursus académique, il y a des choses pour lesquelles tu es particulièrement fière, que tu te dis « Ah, là, vraiment... c'est quelque chose qui s'est très 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 bien passé pour moi. »
Oui, en fait, c'est très difficile de choisir exactement une chose. Mais si je peux choisir, je peux dire qu'il y a une partie de ma recherche que j'ai fait en Espagne dont je suis vraiment particulièrement fière. Donc, c'était donc la découverte qu'un micro-ARN, qui est micro-ARN 219, régule d'une manière, je veux dire, un contrôle positif, qui est une chose très rare pour les micro-ARN, donc régule d'une manière positive le canal ionique NAV1.5. Et aussi, en collaboration avec mes collègues, donc on a pu utiliser cette fonction de ce micro-ARN pour essayer de voir des outils thérapeutiques pour les arythmies cardiaques qui ont à voir avec le gain de fonction du canal ANAV 1.5 et aussi la perte de fonction. Et d'ailleurs, on a pu avoir un brevet sur cette partie.
D'accord.
Donc, je me sens vraiment très fière d'avoir participé à ce travail.
D'accord. Je dois dire que personnellement, je me rappelle de la dernière revue que tu as écrite sur la régulation de SN5A et de NAV1.5, et pour moi, c'est vraiment un exemple d'une revue modèle, hein, parce que tu as abordé un grand, grand nombre de sujets sur cette revue. Elle est vraiment exhaustive. Et pour moi, elle fait vraiment référence. Que je te félicite.
Merci.
Après, naturellement, quand on vient d'un pays comme la Tunisie, parfois, c'est un peu plus difficile de se faire un peu une place, on va dire, au soleil d'un monde académique. Quels furent tes obstacles auxquels tu étais confronté?
Oui, c'est vrai, en fait, c'est pas vraiment facile et c'est pas vraiment évident d'arracher premièrement une position académique à l'université. Donc ça m'a pris beaucoup des années et beaucoup de travail aussi et beaucoup de développement de mon CV pour pouvoir enfin avoir un poste permanent à l'université. Donc un des obstacles, c'est la grande compétitivité des dossiers. On a des gens qui sont très vraiment compétents, donc des gens qui ont étudié ailleurs et qui ont des CV vraiment qui sont excellents. Donc pour pouvoir arracher une place, on a un concours qui passe à peu près chaque 2 ans, donc avec des nombres de places qui sont très limités. Donc ce n'était pas vraiment facile. Donc ça, c'est un des obstacles. Et après, on a des universités, donc plusieurs universités, mais des spécialités différentes. Donc pour avoir vraiment une position, une spécialité bien déterminée, donc le nombre est toujours très limité.
Ici, en Europe et en Suisse en particulier, lorsqu'on regarde un petit peu les parcours académiques, ou bien lorsqu'on regarde un peu le paysage académique, notamment dans les sciences de la vie, on se rend compte qu'il y a une sous-représentation de femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi en Tunisie? Est-ce que tu avais l'impression que c'est quelque chose qui est aussi un défi?
Non, heureusement en Tunisie, le problème, je veux dire, la discrimination pour les femmes, c'est vraiment un thème à ne pas discuter parce qu'on a les opportunités plus ou moins qui sont égales. Donc là, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est plutôt la compétitivité avec des gens qui ont des dossiers très chargés, soi-disant. Et donc, ce n'est pas un problème entre, je veux dire, hommes-femmes, sinon c'est entre les gens, entre eux. Mmh. Donc, il faut vraiment avoir un dossier costaud pour pouvoir arracher une place, à part bien sûr et d'autres mesures secondaires, mais je pense que ça, c'est l'essentiel. De plus, puisque le concours de recrutement, ce n'est pas un événement fréquent, je veux dire, chaque année, non. Ça peut passer même des 6 ans pour avoir un concours de recrutement, donc c'est une des causes.
Aussi, quelque chose que j'observe parmi mes collègues dans les universités africaines, c'est que souvent, donc, ils sont engagés, ils ont des positions de maître assistant, de professeur assistant, de professeur, mais on attend d'eux surtout à ce qu'ils fassent de l'enseignement et il y a très 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 peu de moyens pour la recherche. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves en Tunisie?
Oui, exactement. En fait, ça c'est un point vraiment qui est très intéressant à relever puisque être par exemple dans ma position comme maître assistant, ça me demande beaucoup de temps pour l'enseignement et donc bien sûr si je vais consacrer beaucoup de temps pour l'enseignement, donc très peu de temps pour la recherche, donc faire l'équilibre entre enseignement et recherche, c'est vraiment difficile et surtout pour les 2 ou bien 4 premières années où chaque enseignant doit préparer son cours et tout ça, donc ça demande beaucoup de temps et donc bien sûr pour la recherche c'est un peu difficile.
Mais est-ce que comme dans d'autres pays, en Tunisie, vous avez aussi des instituts nationaux de recherche ou bien la recherche se fait principalement dans les universités ?
Oui, il y a les deux en fait. Il y a des instituts qui sont spécialisés à la recherche. Donc, je cite ici l'Institut Pasteur. Il y a aussi des centres de recherche, par exemple le Centre de biotechnologie de Sfax. Il y a aussi des centres de biotechnologie au nord du pays, par exemple Borsedria, Sidi Thebet. Il y a plusieurs. Donc, il y a aussi au sud, donc pas très loin de chez moi, l'Irak. Il y a un centre spécialisé en agriculture et tout ce qui a à voir avec l'élevage et tout ça. Mais il y a aussi des recherches au sein des institutions, je veux dire, d'enseignement, au sein des universités, des instituts et tout ça.
À nouveau, pour continuer un petit peu dans la question du soutien à la recherche, quels sont un petit peu ta vision ou comment est-ce que tu vois les choses évoluer pour l'avenir? Est-ce qu'il y a une volonté politique ou autre au sein des universités de développer cet aspect de la recherche? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est en fait, comment est-ce que toi, tu ferais pour que cet aspect de recherche soit développé si tu avais un petit peu plus de pouvoir, disons?
Oui. Bon, pour la première question, la volonté, oui, existe. En fait, la Tunisie, je pense que est bien positionnée par rapport aux pays européens. Donc, la Tunisie est un des très peu pays qui sont considérés comme un partenaire stratégique pour la recherche. Donc, elle est déjà engagée dans le réseau H2020, dans tout ce qui a à voir avec les Marie Curie, les offres et tout ça. Donc, côté recherche et offre, oui, elle est très bien positionnée, mais les ressources toujours restent un obstacle parce qu'on peut avoir une offre, par exemple, de collaboration avec un pays européen, mais après, comment on peut faire le management des ressources au sein du pays, ça c'est le problème. Donc, opportunités existent, mais comment utiliser ces opportunités, c'est ce qui manque vraiment. Et de plus, je peux citer aussi l'infrastructure qui aussi nécessite un peu plus de travail là-dessus. Donc on peut avoir de l'argent, mais si on n'a pas une bonne infrastructure, on ne peut pas implémenter bien son projet.
Maintenant, dernière question. Donc, tu te retrouves ici en Suisse, à l'Université de Berne pendant un mois. Ouais. Peut-être décris un petit peu le cadre de la collaboration.
Oui, en fait, je suis très reconnaissante à toi, Hugues, premièrement, et aussi au SNF, donc le Fonds Suisse, pour cette opportunité, puisque mon stage d'un mois est financé par une bourse du Fonds Suisse. Et vraiment, je suis très contente de faire connaissance au groupe et de voir ce qui est en train d'être travaillé ici. Donc, on a plein de points en commun et plein de terrains en commun donc sur lesquels on peut un peu plus travailler, développer peut-être pour des futurs projets de collaboration.
En effet. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on est en contact. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'être vraiment ensemble là, et je vois aussi le potentiel qu'on peut avoir pour poursuivre cette collaboration.
Oui, je suis très contente de nous voir physiquement et en fait de discuter directement donc, de ce qu'on peut voir. Comme j'ai déjà mentionné avant, donc, il y a des ressources de point de vue génétique en Afrique, il y a plein de choses qu'on peut travailler ensemble. Donc il reste juste de voir le cadre et comment on peut implémenter ça.
Merci beaucoup, Ria.
Merci à toi. Merci
pour cet entretien. Et puis, surtout, je me réjouis à l'idée de poursuivre justement ces collaborations qu'on vient d'évoquer à l'avenir.
Merci beaucoup.
Et puis, à vous toutes et tous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, restez attentifs, car en cette année 2025, nous comptons encore publier d'autres interviews avec des collègues du continent africain. Donc, à bientôt.